Alors, je vous propose ce soir de parler de la foi au travers d'un passage très connu des Écritures en Matthieu 8, hein, c'est la foi du centenier. C'est Matthieu 8, versets 5 à 10. Je vous lis le passage, Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10. Il est écrit: Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: Va, et il va, et à l'autre: Viens, et il vient, et à mon serviteur: Fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors là, nous avons quelque chose de particulier, et je vais commencer par ça. C'est quand on lit par ailleurs Jésus parler de la foi, il enseigne à ses disciples que la quantité de foi n'est pas importante, puisqu'il dit, par exemple, que si on a la foi comme un grain de sénevé, on peut déplacer des montagnes. D'un côté, il enseigne cette vérité que le peu de confiance que l'on pourrait avoir vis-à-vis de Christ et de ce qu'il peut faire suffit à plaire à Dieu. C'est déjà la foi. Il a l'air d'enseigner à ce moment-là que la foi n'est pas quantifiable. Mais, d'autre part, il note la foi des gens. Par exemple, lorsqu'il est dans le bateau, vous savez, lorsqu'il dort au milieu de ses disciples, on voit ça dans Marc 4, 39 et 40, je le lis. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi, le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc là, il dit. C'est pas en contradiction avec le passage sur le grain de moutarde ou le grain de sénevé, c'est qu'ils n'ont pas de foi. Mais en tout cas, on voit bien que Jésus note ce point. Et puis, il y a à un moment donné une situation où les croyants sont dans un état intermédiaire, puisque en Matthieu 6, 30, pour parler de la fidélité de Dieu alors qu'on va décider de le servir, en Matthieu 6, 30, il dit: Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc, dans le verset précédent, ils n'avaient point de foi dans le bateau. Là, ils ont peu de foi. En revanche, en Matthieu 8 avec le centenier, il dit qu'en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Donc, on voit pas de foi, peu de foi, grande foi. Et par ailleurs, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est d'avoir de la foi. Donc comment s'y retrouver? En réalité, Jésus parle, il y a deux contextes différents. Il y a, je dirais, le contexte purement spirituel et relationnel, et que Jésus regarde au milieu de notre situation, au milieu de notre chair, de nos faiblesses. Du combat spirituel, du prince de la puissance de l'air, les pensées de ce monde. Et donc il regarde au cœur des individus et lorsqu'il discerne un peu de foi, il se réjouit et ça suffit. D'accord? C'est comme si une connexion est faite. En revanche, on peut, après une fois qu'on est connecté avec Dieu, notamment pour nous qui sommes sauvés, il y a la foi que j'appellerais relationnelle. Parce que quand je parle d'une foi relationnelle, nous aujourd'hui qui parlons, qui sommes ensemble, on vit aussi ce paradoxe, c'est que d'un côté, on croit en Dieu. Voilà. Que ça soit peu ou beaucoup, mais voilà, on sait au fond de nous que la vérité est en Jésus-Christ. Donc il y a peut-être des jours où on est peut-être plus éteint, on est plus charnel. On est plus dépressif, mais on a tous la foi, donc, et ça, c'est ça qui plaît à Dieu, ça suffit, on est enfant de Dieu. mais ça ne veut pas dire que la relation avec Christ est bonne. Et donc, dans la sphère de la relation, il y a peu de foi ou grande foi. C'est-à-dire que quand on va avoir peu de foi, par exemple en Matthieu 6,30, que se passe-t-il ? Les disciples peuvent douter devant l'appel de Dieu en disant « Mais si Dieu me demande telle ou telle chose, est-ce que je dois dire oui ? Parce que ça, ce qu'il me demande comporte des risques. » Donc on a peu de foi. On croit en Jésus et en même temps, on se dit comment je vais faire ? Et puis peut-être qu'on oublie de dire, de se poser la question comment Dieu va faire, alors qu'en réalité, parce que c'est lui qui va faire les choses. Donc, la relation n'est pas très bonne. S'agissant du centenier, qui ne connaît pas Jésus, qui ne l'a jamais rencontré, qui en a entendu parler, la relation, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance, il n'y a rien entre deux. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de reproche fait à Jésus. Il n'y a pas d'exigence particulière, c'est-à-dire qu'il reste dans sa position de créature devant son créateur. Et donc, la relation est bonne. Et c'est ça aussi que Jésus regarde, c'est-à-dire qu'il regarde au peu de foi ou à la grande foi qu'on a, mais qui de toute façon importe peu quant à notre position en Christ. Nous avons la foi de toute manière. Et puis, il y a la foi relationnelle, que je l'appelle comme ça ce soir, cette foi relationnelle qui peut nous donner la paix ou pas. Parce que il peut y avoir une foi où voilà, on a été à l'institut biblique, on est dans une église depuis des années, on est converti depuis longtemps, on connaît notre Bible. Oui, bien sûr, on croit que Dieu peut tout faire. On connaît en Luc, rien n'est impossible à Dieu. On connaît tout ça, on connaît la doctrine, mais ça ne veut pas dire qu'on expérimente la doctrine. Et donc, la foi relationnelle est très limitée parfois, c'est-à-dire qu'on est, on doute en réalité. Et puis parfois, on a vraiment confiance en Dieu, on a une assurance, il y a une grande foi. Et ce que l'on voit dans ce passage de Matthieu 8, et c'est maintenant sur ce passage que je vais m'attarder, c'est que mine de rien, il y a pas mal d'informations qui nous expliquent pourquoi Jésus dit que c'est une grande foi. Parce que c'est vrai, évidemment Jésus ne se trompe pas, mais on peut s'interroger en disant « Ok Seigneur, tu dis qu'il a une grande foi, mais quelles sont les raisons ? Quels sont les critères qui font que toi tu nous dis que c'est une grande foi et pourquoi d'autres auraient une petite foi ?» Et donc la première chose que l'on voit dans ce passage, dans la relation entre Jésus et ce centenier romain, c'est il a une grande foi cet homme par rapport à la personne qu'il était. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a rien pour lui. C'était un ennemi romain, c'était quelqu'un qui occupait le sol. Et donc, c'était pas quelqu'un qui était dans les petits papiers des Juifs. Or, pour le Romain, Jésus est juif, et c'est le cas. Et donc, il aurait pu se dire, vu la position que j'ai, c'est sûr que Jésus va pas me répondre à ma demande. Je suis un ennemi de ce peuple, je les occupe, c'est nous qui parfois les maltraitons, et donc pourquoi ils m'écouteraient ? La deuxième chose que l'on voit, et c'est en rapport par exemple avec ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, où il dit que les païens n'avaient pas droit de cité en Israël, les païens étaient étrangers à la promesse, et donc ce centenier romain, il est exactement dans cette situation-là. C'est-à-dire que, rappelez-vous, Jésus plusieurs fois va dire « J'ai été envoyé uniquement aux brebis d'Israël ». Donc, lui ne fait pas partie de ces brebis-là. La troisième chose aussi que l'on peut dire sur cet homme, c'est qu'il connaissait pas la Torah. Peut-être que c'était un craignant Dieu qui s'approchait de certaines synagogues, peut-être, mais ce n'est pas dit. Mais en règle générale, les Romains ne connaissaient pas la religion juive. Ils ne lisaient pas la Torah. Ce qui fait que c'était quelqu'un qui, normalement, n'était pas appelé à être celui qui devait avoir une grande foi. Et pourtant, il a hérité de cette grande foi. Et pourquoi ? Parce que cet homme n'a pas regardé à sa personne. Il a regardé à la personne de Jésus-Christ. Et donc, c'est toujours le même problème. C'est où nous posons nos regards. Est-ce que nous posons nos regards sur nous-mêmes? Et ce qui fait que si nous regardons nous regardons à nous-mêmes, on peut penser que Dieu répondra pas à notre prière. Soit parce qu'on a péché dernièrement, on n'est pas assez spirituel, peut-être que notre prière est un peu folle, etc., etc. Bon, on peut se donner plein de raisons de douter, parce qu'on regarde à soi. Et on va se dire, Dieu ne va pas être disponible pour moi. Le centenier, pourquoi il a une si grande foi? Parce que la foi consiste à ne pas regarder à soi, mais à regarder à Jésus. Et ce point est important, c'est-à-dire que tant que je regarde par la vue, alors là je ne vais pas parler même des conditions extérieures, mais à notre condition, où quelque part on se sent non méritant, on a l'impression que il y a aucune raison pour que Jésus réponde à notre prière. Et bien, en réalité, on passe à côté du caractère de Dieu. C'est-à-dire que c'est en contemplant Dieu, en pensant à sa bonté, à sa miséricorde, à sa puissance, bien sûr, à sa volonté de nous faire du bien, c'est en regardant à lui que notre foi va augmenter. C'est pas en regardant à nous-mêmes. Vous voyez, c'est pas en se disant bah là j'ai passé une bonne semaine, j'ai fait des bonnes choses, bref, se comporter comme un légaliste, donc maintenant j'ai confiance dans le fait que Dieu m'écoute. Non, Dieu nous écoute parce que c'est sa personne, Dieu est amour, nous sommes ses enfants. Donc ça c'est un point important qui explique sa grande foi. Parce que on le sait, mais c'est bien de le rappeler. Cette grande foi a été attribuée à une personne qui n'est pas juive. C'est-à-dire que Jésus s'est adressé à plein de gens pendant 3 ans, et qui faisaient partie principalement de son peuple, et là il va dire « je n'ai jamais vu en Israël une si grande foi ». Et il parle d'un Romain qui occupe le terrain. Vous voyez, donc cet homme ne regardait pas à sa condition, mais a regardé à Jésus. Et donc, d'une certaine manière, il l'a élevé, il l'a glorifié, il a mis Jésus en valeur. La deuxième chose aussi que l'on voit, c'est qu'il a eu une grande foi par rapport à la situation. C'est-à-dire que il a compris le cœur de Dieu. Rappelez-vous la prière qu'il fait, qu'on a lu tout à l'heure le passage. Pour qui il prie? Il prie pas pour lui-même. Il prie pour un serviteur. Alors d'un côté, ça montre sa compassion pour un serviteur, donc en ce sens-là, sa façon de se comporter se rapproche de celle de Jésus, bien entendu, mais il y a quand même, et c'est lié au premier point, quelque chose de très important aussi, c'est que non seulement il n'a pas regardé à sa condition, mais il n'a pas regardé à la condition de son serviteur, c'est-à-dire que dans la société de l'époque, un serviteur, c'était quantité négligeable, c'était pas important. Des serviteurs qui mouraient, il y en avait plein. On les remplaçait du jour au lendemain. C'est-à-dire que lui, il a mis la valeur dans la vie de son serviteur, mais aussi, il a cru que Jésus verrait la valeur de la vie de ce serviteur. C'est-à-dire qu'il a cru que Jésus-Christ prendrait le temps de répondre à la prière d'un personnage important comme le centenier, qui va intercéder non pas pour lui-même, mais pour quelqu'un de pauvre, pour quelqu'un qui est en marge de la société, qui ne prend pas tellement de place. Et il a cru qu'il pouvait servir d'intermédiaire. Ça, c'est un point important aussi, c'est que dans les prières que nous faisons, il y en a que nous faisons pour nous-mêmes, et parfois quand nous regardons autour de nous et que nous prions pour d'autres, nous regardons la situation des autres, pas lié forcément au péché, mais quelqu'un qui a une maladie, quelqu'un qui perd son travail, quelqu'un qui en effet peut-être désobéit à Dieu, on regarde la condition de certaines personnes et on peut aussi avoir ce regard en disant « bon ben, est-ce que je suis bien placé pour intercéder pour cette personne-là et est-ce que Dieu va s'intéresser à cette personne ?» Eh ben, le centenier a cru que Dieu va s'y intéresser. Et donc ça engendre une grande foi. Je vais vous donner un exemple qui parfois, je ne sais pas si ça vous vivez ça, mais moi des fois je dois m'encourager, m'édifier dans la vérité, parce que si je vis selon ce que je ressens, je peux vivre dans l'erreur. Mais si par exemple nous prions pour les pasteurs au Togo, on les voit jamais pratiquement, ils sont loin. Certains d'entre vous connaissez même pas leur nom. Mais, et donc des fois on peut prier de façon un peu générale. Par habitude, je dirais. En plus, c'est voilà, on est une église missionnaire, alors on prie. Mais est-ce que nous croyons vraiment que Dieu va s'intéresser personnellement et précisément à quelqu'un que je connais à peine? C'est-à-dire que pour moi, c'est une personne qui fait pas vraiment partie de ma vie, mais je crois que pour le Seigneur, cette personne-là fait partie de la vie du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur est concerné par la vie de ces personnes. Et donc, je ne dois pas prier en fonction de ce que je ressens par rapport à telle ou telle situation ou telle personne. C'est-à-dire, voilà, je prie, mais finalement, je les connais à peine, je ne sais même pas comment prier. Alors, je prie, Seigneur, bénis telle ou telle personne qui est à l'autre bout du monde. J'ai l'impression des fois que ma prière a pas d'importance, alors qu'en réalité, je dois avoir cette grande foi où je crois que Dieu s'intéresse à une personne qui ne fait pas partie de mon monde, mais qui peut faire partie du monde de Dieu. Et donc, je suis un intercesseur. Et ce centenier, mine de rien, est devenu un intercesseur, parce qu'il avait une grande foi. Troisième point que l'on voit avec cette grande foi, et ça doit nous aider, nous, à, quand, comme l'a dit l'apôtre Pierre, il dit à Jésus, augmente-nous notre foi, ben là, ça peut nous y aider. C'est, on voit qu'il a une grande foi parce que l'ampleur du problème devant lequel il était est très grande. Il faut savoir, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il est dit dans le passage que le serviteur était paralysé et il souffrait beaucoup. Alors, on ne sait pas de quelle maladie il était atteint, mais peut-être que personne ne le savait. Le centenier ne le savait peut-être pas. C'est-à-dire que la science n'était pas aussi développée aujourd'hui. Donc, des fois, vous voyez à l'époque des gens commencer à être malades, avoir des symptômes vraiment graves, sans pouvoir rien faire. On ne savait pas pourquoi la personne devenait paralysée et souffrait beaucoup. Le cancer existait déjà à l'époque, d'accord? Il y avait déjà des kystes, il y avait déjà des maladies neurodégénératives. Enfin voilà, tout, ça existait déjà, sauf qu'on ne pouvait pas nommer, on savait pas ce que c'était. Et donc, ce qui est inconnu nous paraît encore plus, impossible à régler. Et pourtant, il a cru que Jésus pouvait faire quelque chose. Donc, vous voyez, il regarde pas à sa condition. Il ne regarde pas la condition du serviteur et il ne regarde pas la situation du malade et à la gravité de la maladie. Pourquoi il a une grande foi? C'est qu'à chaque fois, il oppose la personne de Jésus à la situation. Il oppose la personne de Jésus à sa personne. Il oppose la personne de Jésus à la personne de son serviteur. Donc encore une fois, la grande foi est toujours liée au regard que l'on porte sur Jésus. Dès qu'on regarde à la situation, la foi diminue. Ou alors, c'est quelque part, la situation n'est pas si grave et du coup, on pense même pouvoir la régler. Donc, évidemment, on a la foi. D'accord? Mais quand c'est impossible, je vous donne un exemple. Si je prie pour que le train parte à l'heure demain, est-ce que j'ai une grande foi? Honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai tendance à penser que de toute façon, il partira à l'heure. Donc je prie, c'est, allez, un petit truc supplémentaire, une sécurité supplémentaire, mais en règle générale, le train va partir. Mais quand vous êtes dans une situation où le monde ne peut rien faire et vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire, est-ce que Jésus peut faire? Voyez, il n'y a plus rien à faire, mais est-ce que Jésus peut faire? Et c'est ça la foi, c'est de croire que Dieu peut faire quand il n'y a plus rien à faire. Alors je dis ça, quand on est dans ces moments-là, on doute souvent. Mais on voit que ce centenier, il était dans une situation où il n'y avait plus rien à faire. Et ben qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à celui qui peut encore. On voit aussi quelque chose de très important par rapport à sa grande foi, c'est que sa foi est grande par rapport à sa requête. Parce que, alors, il y a deux facettes dans la requête. Il y a une première facette. C'est encore une fois, il prie pour une maladie qui semble incurable, mais il ne demande pas grand-chose pour que la guérison se fasse. Il demande simplement que Jésus prononce une parole. Et ça, c'est une grande foi aussi. C'est-à-dire qu'il croyait que la parole de Dieu suffisait, qu'il n'y avait pas besoin de rituels particuliers. Jésus a manifesté ou exercé des rituels. Quand je parle de rituels, c'est qu'il a pu des fois imposer les mains sur un corps, il a pu prononcer une prière particulière, il a pris à un moment donné, vous savez, de la terre et il a mélangé à sa salive et il a déposé sur les yeux d'un aveugle. Donc il a utilisé des rituels ou des gestes qui parlent. Mais là, on voit le centenier entrer vraiment dans ce que Jésus dit à la femme au puits, vous savez, en Jean 4, qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. La vérité, c'est que Jésus pouvait, et l'esprit, ça signifiait que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer, qu'une parole suffisait. Et parfois, dans notre vie, on a besoin de croire une promesse. Alors, il faut que la promesse soit prononcée, il ne faut pas parler à la place de Dieu. Mais lorsque Dieu nous fait une promesse, lorsqu'un verset nous touche particulièrement, et pas un verset qu'on a été chercher nous-mêmes exprès pour que ça réponde à nos désirs, mais que vraiment ça a été, c'est venu d'une manière ou d'une autre, et on sait que c'est Dieu qui intervient. Lorsque la parole de Dieu vient, peut-être que on va pas tout de suite voir la concrétisation de la réponse à la prière. Ça peut prendre du temps. On n'est pas sur place. Mais une parole suffit. Et c'est pour ça qu'il avait une grande foi. La parole suffisait. Et quand on regarde un petit peu les Écritures, et qu'on regarde au héros de la foi selon le chapitre de Hébreux 11, Abraham, il est parti de sa terre natale suite à l'écoute de la parole de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit de partir. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de catalogue, il n'y avait pas des arts ou d'une promesse particulière autre que la parole. Lorsque Dieu demande d'aller en Canaan et de traverser le Jourdain, c'est simplement une parole. Plutôt, quand il dit qu'il faut il faut quitter l'Égypte en tuant un mouton d'une certaine manière et en mettant du sang sur les linteaux de la maison, je veux dire, ils n'avaient pas d'autre choix que de croire la parole de Dieu. Il n'y avait rien pour vérifier. Il n'y avait rien. Et pourtant, ils ont cru sur le fondement d'une parole. Combien de fois les héros de la foi ont obéi sans preuve, sans l'once même d'un début de réponse. Mais la parole de Dieu suffisait. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est qu'une grande foi s'appuie sur la parole de Dieu. Cinquième point aussi que l'on voit, alors j'en ai parlé un peu sur la situation du centenier en tant que, je dirais, position sociale. J'ai parlé du fait que le fait qu'il soit romain, qu'il ne soit pas juif, tout ça jouait apparemment contre lui. Mais il n'a pas regardé à ça. Mais aussi, il n'a pas regardé à son être intérieur en termes d'être pécheur. Il savait très bien que Jésus était un envoyé de Dieu, et que lui, qu'est-ce qu'il dit de lui ? Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. C'est-à-dire que ce Romain était humble, il savait très bien où il en était. Mais cette indignité n'était pas un frein pour sa foi, parce qu'il savait que Dieu pouvait aller au-delà de son indignité. Donc ça, c'est un point aussi important. Des fois, on va se sentir coupable pour X raisons. Des fois, c'est même pas tellement défini. Et on se sent pas digne de demander. Mais le centenier, lui, a demandé. Il est conscient de sa position. Et donc, il va simplement dire, t'es pas digne de venir chez moi. Mais par contre, je suis suffisamment digne pour que tu puisses prononcer une parole. Et ça, c'est une grande foi. Il savait que Jésus s'intéressait même aux personnes indignes. Et d'ailleurs, dans la façon dont Jésus a choisi ses apôtres, honnêtement, combien étaient dignes ? Est-ce que le PAG comme Matthieu était digne d'être apôtre ? Pas sûr, vous voyez. Même les apôtres, après les pêcheurs comme André ou Pierre, je veux dire, c'était des gens, ils n'avaient pas fait une école talmudique ou autre. Est-ce qu'ils étaient dignes de devenir des prédicateurs de l'Évangile ? Ils étaient tous dans une position, je dirais, inférieure, mais pourtant, ils sont entrés dans l'appel de Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est de regarder à celui qui nous appelle. Et on voit aussi que sa foi est grande par rapport aux résultats obtenus, c'est-à-dire qu'il a cru l'impossible Et la réponse s'est faite. Et c'est pour ça que cette grande foi a été manifestée. C'est-à-dire qu'il n'a pas prié pour quelque chose de bénin, quelque chose de facile, je dirais. Et il a eu la foi, certes, mais en plus, il y a eu la réponse de la foi. Et c'est en ce sens-là que cette foi est grande et qu'elle a été manifestée. Alors, je précise, parfois, Dieu ne va pas répondre positivement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une grande foi. Néanmoins, là, c'est amplifié par ce fait, c'est qu'elle est grande par rapport au résultat obtenu. Il est dit qu'il soit fait selon ta foi. Et comme il croyait en de grandes choses, des grandes choses se sont réalisées. Et vous savez, dans notre vie, alors on n'est pas tous appelés à vivre de grandes choses. Je parle en termes de héros de la foi, la mission, etc., etc., la manifestation des dons. On a tous des appels et des dons différents. Mais s'agissant de la puissance de Dieu dans notre vie, on peut tous vivre ça, honnêtement. Sinon, Dieu ne serait pas juste. Et cette grande foi, elle est possible pour chacun d'entre nous. Si Jésus a pu dire de ce centenier « j'ai jamais vu une si grande foi », ça sous-entend que les autres auraient pu la vivre. D'accord ? C'est que ça veut dire que c'était possible. Et c'est pas uniquement, je vous dis, des grands serviteurs ou autres, c'est même dans le quotidien, on peut avoir une grande foi. Et je terminerai par un verset que l'on connaît, mais je pense qu'il a tout son sens en conclusion à ce que je viens de dire, c'est Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et là, pour le coup, Jésus a vraiment été le rémunérateur de ce centenier. Ce centenier le cherchait, il cherchait de grandes choses de la part de Jésus, et Jésus l'a rémunéré. Donc, ne pas sous-estimer la foi, parce que parfois on peut vivre... Encore, on peut prendre ce sujet d'une façon légaliste en disant « Ah, un chrétien doit vivre la foi » et on voit ça comme un commandement. Non, la foi, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. C'est pas un commandement. C'est que ça lui plaît qu'on lui fasse confiance. Alors évidemment, et je l'ai dit déjà, tout porte à croire que Dieu ne fasse pas certaines choses. Notre indignité, notre condition... la situation, le problème est important, etc., etc. Mais quand on regarde à Jésus, et si on le regarde correctement, objectivement, peu importe la situation, si on regarde à Jésus objectivement, la foi augmente. Et du coup, on peut intercéder de la meilleure façon. Que Dieu vous bénisse.